Bonjour Guillaume Larrivée.
Bonjour.
Allez-vous voter aujourd'hui la loi anti-casseurs à l'Assemblée nationale ?
Oui, je la voterai. Alors, c'est pas un texte parfait, mais j'en ai discuté avec un certain nombre de responsables policiers, de responsables opérationnels. Je crois que globalement, c'est un texte utile. En particulier, il y a une mesure qui s'appelle l'interdiction administrative de manifester.
Qui est la mesure la plus polémique.
Oui, mais qui est une mesure que j'ai proposée en 2016, il y a 3 ans, dans le cadre d'un rapport parlementaire. Je crois que ça peut être utile pour mieux maîtriser des manifestations en exfiltrant, au fond, un certain nombre d'individus casseurs, sous le contrôle bien sûr du juge administratif. Voilà, donc je voterai ce texte. C'est pas une cathédrale législative, c'est pas une révolution, mais je crois que globalement c'est un texte plutôt utile qui d'ailleurs avait été proposé par les Républicains au Sénat, par Bruno Retailleau.
Alors je disais que c'était la mesure la plus polémique, cette interdiction administrative. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, ils sont nombreux, puisqu'il y en a même au sein de la majorité, qui considèrent que c'est une mesure liberticide, qui est en fait une interdiction de manifester tout simplement?
Mais vous savez, le droit administratif, c'est toujours un équilibre entre d'un côté l'ordre public et de l'autre les libertés. Tout est question d'équilibre et de contrôle juridictionnel. En l'occurrence, je ne veux pas être trop technique, mais là vous aurez une décision prise par un préfet ciblé sur des individus, et ces individus peuvent parfaitement contester la mesure devant le juge administratif. Oui. Ça me paraît pas du tout contraire au grand principe, ça me paraît être une mesure utile. Mais encore une fois, c'est pas une révolution, le vrai sujet c'est un sujet opérationnel. Ce qu'il faut, c'est que le préfet de police, les autorités administratives sur le terrain gèrent les manifestations mieux qu'elles ne l'ont fait ces derniers mois, parce que je dois le dire, je suis pas épaté par la manière dont l'ordre public a été géré, ou plutôt n'a pas été géré à Paris, dans des grandes villes de province ces derniers mois.
Concrètement, quelqu'un qui ferait l'objet d'une interdiction administrative de manifester peut donc saisir le juge administratif, mais est-ce que les délais lui permettront d'être effectivement dans la manifestation si son recours est retenu?
Bien sûr, vous avez des procédures contentieuses, on appelle ça le référé, qui permettent au juge d'être saisi de manière rapide. Mais au-delà de ça, moi je voudrais pas qu'il y ait une sorte, comment dire, de présomption de culpabilité sur l'autorité administrative. Si un préfet décide de prendre une mesure d'interdiction administrative, c'est pas pour le plaisir d'embêter les gens, pardon de le dire, mais c'est pour éviter des incidents. Je voudrais rappeler que les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale ont été blessés ces derniers mois lors de manifestations extrêmement violentes qui ne sont plus des manifestations d'expression libre, mais qui sont devenues le prétexte à des affrontements très préoccupants pour la paix civile.
Vous n'avez pas été sensible à la mise en garde de votre collègue Charles de Courson, qui a estimé qu'on se croirait revenu sous le régime de Vichy et qui a dit que ce serait une folie de voter ce texte, en estimant notamment que si demain un pouvoir peut-être un peu moins démocratique arrivait aux manettes, eh bien ça pourrait donner lieu à des dérives très préoccupantes.
J'ai beaucoup de sympathie pour Charles de Courson, qui je crois est un meilleur spécialiste des questions fiscales que des questions relatives à l'ordre public.
Il y a aujourd'hui un appel à la grève nationale de la CGT, relayé par un appel à la grève générale lancé par Éric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes. Est-ce que ça peut être le début d'un rapprochement entre syndicats et Gilets jaunes?
Je crois pas. Moi, je suis plutôt frappé ces derniers temps par la très grande faiblesse de la CGT que vous évoquez à l'instant. Donc j'ai plutôt tendance à penser que cet appel de M. Martinez aura un assez faible écho dans l'opinion publique. On verra. Mais je ne crois pas du tout à l'idée d'une grève générale lancée par la CGT. On n'est plus au milieu du XXe siècle.
Quelle est votre position, Guillaume Larrivée, sur l'hypothèse d'un référendum à l'issue du grand débat national? On a l'impression que tout le monde n'est pas exactement sur la même position chez les Républicains. François-Xavier Bellamy, tête de liste aux Européennes, dit « Ce qui est certain, c'est qu'on ne sortira pas de la crise par un référendum. » Christian Jacob, le président du groupe à l'Assemblée nationale, pas convaincu que la voie référendaire réponde à la situation actuelle. Geoffroy Didier, secrétaire général délégué du parti, dit lui « Le référendum fait partie des institutions de la Cinquième. Nous ne sommes pas opposés au principe. » Et enfin, Laurent Wauquiez lui a mis en garde le président de la République contre un référendum qui serait couper des préoccupations et des priorités des Français. Alors vous, Guillaume Larrivé, où vous situez-vous ?
Moi, je pense que Emmanuel Macron cherche à embrouiller les Français dans cette affaire.
Apparemment, il arrive à vous embrouiller chez les Républicains.
Non, je dirais pas ça, mais enfin, ne soyons pas dupes. Le grand débat, en ce moment, est en train de se transformer en une sorte d'opération de campagne électorale du président de la République. Il suffit de se brancher sur les chaînes info. Vous avez des heures et des heures, des débats, non
six
pas
heures,
des Français
six heures hier
entre
encore,
eux,
à peu près, oui.
Mais en réalité, une sorte de campagne électorale du président de la République. Alors, est-ce que c'est une campagne électorale pour les élections européennes le 26 mai ou une campagne électorale pour un ou plusieurs référendums le 26 mai ? On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une opération de campagne électorale. Le référendum, répondons sur le fond. Le référendum, c'est vrai que c'est un instrument qui existe dans nos institutions, notamment l'article 11 de la Constitution. Le vrai sujet, c'est qu'un référendum, s'il y en a un, il doit être utile, doit servir à quelque chose. Si c'est juste pour demander aux Français, êtes-vous pour ou contre le vote blanc, enfin, questions qui sont intéressantes, mais qui sont complètement accessoires, qui sont pas au cœur des problèmes de la France aujourd'hui, alors ce sera une sorte de petite manipulation, de tentative d'Emmanuel Macron de se refaire, si j'ose dire, une santé via un référendum. Non, ce que je crois important, moi, c'est que les vrais sujets, c'est-à-dire les sujets fiscaux, économiques, reviennent au cœur de la table. Et à cet égard, je voudrais vous dire, ce matin, je suis très inquiet lorsque je lis dans les journaux de ce matin que le gouvernement d'Emmanuel Macron, avec Gérald Darmanin, le ministre du Budget, envisage, en fait, d'augmenter l'impôt sur le revenu. C'est la question des niches fiscales. Supprimer des niches fiscales qui réduisent l'impôt sur le revenu, ça veut dire augmenter l'impôt sur le revenu. Or, l'impôt sur le revenu en France, il est déjà extrêmement élevé et il ne porte que sur une petite moitié des Français. Donc, je ne voudrais pas que ces débats sur le débat ou ces débats sur le référendum embrouillent les Français et fassent oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la nécessité de baisser enfin les impôts sur les classes moyennes en baissant au préalable la dépense publique.
On est bien obligé dans un référendum de limiter le nombre de questions. Donc il serait difficile d'imaginer un très long questionnaire sur tous les aspects des revendications.
Et vous avez raison, un référendum, c'est pas le Trivial Poursuite, c'est pas un QCM, c'est pas un jeu télévisé. Vous avez parfaitement raison, Frédéric Rivière. Le référendum dans la Ve République, il a été utilisé 9 fois lorsque des grandes questions, par exemple le traité de Maastricht en 1992, par exemple le quinquennat en l'an 2000, par exemple la situation algérienne à l'époque du général de Gaulle. Bref, des grandes questions sont soumises au peuple français. Une belle et grande question, ça pourrait être une question de politique économique et fiscale, un plan de réduction des dépenses publiques,
oui, c'est
et
ce
un plan
proposé
de
Wauquiez.
Réduction. Oui, mais on en a parlé ensemble, et ce n'est pas totalement hasard que le président des Républicains ait fait cette proposition, parce que nous, les Républicains, nous pensons que le cœur du sujet, il est là, si vous voulez. On a aujourd'hui, vous le savez, Frédéric Rivière, le record mondial en France des prélèvements obligatoires, des taxes et des impôts. C'est délirant, ça détruit de l'emploi, ça prive de perspectives des Français qui ont envie de créer des richesses. Et donc c'est ça le vrai sujet. On a besoin de se libérer de ce matraquage fiscal qui détruit des emplois en France et qui détruit aussi, au fond, la qualité de vie des classes moyennes.
La semaine dernière, votre collègue Éric Woerth, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, qui était à votre place, disait que les Républicains n'ont pas vocation à faire un bon score aux européennes, mais à les gagner. Est-ce que vous partagez cette conviction, cette exigence, et est-ce que vous êtes confiant dans la capacité de la tête de liste qui a donc été choisie, François-Xavier Bellamy, pour réaliser cet objectif?
En tout cas, on va faire une belle campagne. Moi, je suis très fier.
Une belle campagne, c'est bien, mais un bon résultat, c'est mieux, non?
On va faire une belle campagne avec l'objectif de faire, évidemment, le meilleur résultat possible, parce qu'on a des convictions. Et moi, je suis très content de l'équipe qu'on est en train de constituer avec ce trio de candidats qui ont vocation donc à devenir député européen. Arnaud Danjean, mon ami bourguignon, qui est déjà député européen, qui est très reconnu, très sérieux, notamment sur les questions de sécurité et de défense. Agnès Evraine, vice-présidente de la région Île-de-France aux côtés de Valérie Pécresse. Et puis François-Xavier Bellamy, qui est un homme de qualité et de conviction. On se réunit d'ailleurs, votre serviteur et ses trois têtes de liste, jeudi matin, rue de Vaugirard, pour travailler ensemble sur notre projet. Et puis dans la foulée, on va aller chez moi, dans l'Yonne, faire une visite de terrain, au contact des viticulteurs, au contact des élus. Et l'objectif, je vous le confirme, Éric Woerth a parfaitement raison, c'est de faire le score le plus élevé possible.
Gagner,
parce qu'on défend des idées qui sont utiles. C'est pas le fédéralisme de M. Macron et c'est pas non plus la brutalité extrémiste de Mme Le Pen, c'est une voie réaliste pour la France en Europe.
Merci Guillaume Larrivé, bonne journée.